السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Le Messie promis à l'Islam a déclaré « J'ai été envoyé afin que revienne l'époque de la vérité et de la foi, afin de créer la taqwa dans les cœurs. » Un Ahmadi annonce qu'il a prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'Islam. De ce fait, il doit tout le temps avoir en tête les paroles du Messie promis à l'Islam. Et il doit à chaque instant méditer à propos de ces paroles et essayer de vivre selon ses préceptes. Lorsqu'il va agir ainsi, c'est là qu'il va s'acquitter de ses devoirs envers son serment d'allégeance. Sinon, ce ne sera qu'une simple déclaration de sa part, à savoir que je suis un Ahmadi. Cette vérité et cette foi pour lesquelles Dieu a envoyé le Messie promis à l'Islam, grâce auquel il va créer la taqwa dans les cœurs, eh bien cette vérité, cette foi et cette taqwa ne sont pas de nouvelles choses. Le Messie promis à l'Islam a déclaré qu'il est venu afin que revienne cette période de vérité et de foi. C'est-à-dire, cette foi et cette vérité et cette taqwa étaient présents et on a perdu ces qualités. Le Messie promis à l'Islam est venu faire revivre cette période. Nous savons très bien que cette période de vérité, de foi et de taqwa est apparue dans toute sa gloire lorsque Dieu a envoyé notre maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a envoyé et a parachevé ainsi la charia en déclarant « Al-Yawma akmaltu lakum dinakum » wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Il a déclaré qu'aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre foi et j'ai complété mes faveurs sur vous et j'ai choisi pour vous l'islam comme religion. Dieu a fait cette annonce et ainsi il a parachevé la foi. Aucun Ahmadi n'entretient la moindre pensée que le Messie promis à l'islam a apporté quelque chose de nouveau. Aucun Ahmadi ne peut penser ainsi. Le Messie promis à l'islam est venu rétablir cette période de vérité, de foi et de taqwa, une période qui a été établie par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, selon les prophéties du Saint-Coran et selon les prophéties du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et les musulmans, en raison des conséquences de leurs méfaits, ont été privés de cette période de foi, de taqwa et de vérité. Nous qui disons avoir accepté le Messie promis à l'islam, nous devons voir jusqu'à quel point sommes-nous en train de créer hors nous cette foi qui est en accord aux préceptes du Saint-Coran, des qualités que les compagnons du Saint-Prophète ont créées en leur personne. Sommes-nous en train d'établir cette vérité, tout comme à l'époque du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, un grand nombre de croyants l'ont établi en eux? Sommes-nous en train d'essayer de générer cette taqwa que les compagnons du Saint-Prophète ont généré en eux au cours de leur vie? Le Messie promis à l'islam a apporté ces révolutions dans la vie de ses compagnons, ceux qui ont vécu en sa compagnie. Lorsque je mentionne la vie des compagnons du Messie promis à l'islam, j'en fais mention dans ce contexte. Le Messie promis à l'islam a déclaré que j'ai été envoyé afin que revienne l'époque de la vérité et de la foi, afin de créer la taqwa dans les cœurs. Quelques lignes plus bas, le Messie promis à l'islam déclare : voilà l'objectif principal de ma vie. C'est-à-dire, c'est l'objectif principal de l'existence du Messie promis à l'islam. Hadrat Mirza Ghulam Mohammad alayhi salam s'adresse aux membres de sa communauté comme les branches verdoyantes de son arbre. Ce sont les personnes qui vont mettre en pratique ces préceptes qui seront considérées comme les branches verdoyantes de son arbre. Car il a déclaré que c'est là l'objectif principal de sa vie. Il est impossible qu'un arbre qui donne des fruits juteux puisse aussi donner des fruits empoisonnés. Aucune branche sèche peut faire partie de cet arbre. Le propriétaire de l'arbre ne va jamais laisser ses branches sèches sur son arbre. Il va certainement les couper et s'en débarrasser. Nous avons donc beaucoup de soucis à nous faire à ce sujet. Nous devons aussi comprendre que nous avons des responsabilités à assumer après avoir prêté allégeance aux mains du Messie promis à l'islam. Lorsque je lis ou j'écoute à propos du parcours de ceux qui ont embrassé l'Ahmadiyya, ma foi se retrouve renforcée. Mais il y a aussi d'autres personnes, celles dont les aïeux et les grands-parents étaient des Ahmadis. Mais ces personnes, lorsqu'elles font preuve de laxisme, Cela me peine profondément. Ces personnes n'ont pas été à la hauteur des désirs du Messie premier, l'Islam, et n'ont pas suivi les préceptes de l'Islam tout comme ils devaient le faire. Certains sont négligents parce qu'ils sont Ahmadis de naissance. Chacun d'entre nous doit donc faire l'analyse de son cœur. On doit faire cette analyse à chaque instant. Ne sommes-nous pas coupables de ces négligences qui pourront fermer la porte sur nous? Des négligences après lesquelles il n'y aura plus de possibilité de faire marche arrière. Ne sommes-nous pas des Ahmadis de nom uniquement? Dans ses écrits, le Messie promis à l'Islam a attiré notre attention à ce sujet. Il a déclaré que l'on pourra maintenir l'esprit de l'Ahmadiyya lorsqu'on va faire son analyse de conscience à chaque instant, lorsqu'il n'y aura pas de contradiction entre nos paroles et nos actions. Il voulait voir une distinction claire et nette entre nous et les autres. Il a déclaré que, à plusieurs reprises, j'ai déjà dit qu'apparemment, il n'y a pas de différence entre notre communauté, notre jamaat et les autres musulmans. Vous êtes musulmans et les autres aussi se disent musulmans. Vous récitez la kalima et eux aussi récitent la kalima. Vous dites que vous êtes en train de suivre le Saint-Coran et ils font les mêmes déclarations. Ainsi, vos déclarations sont similaires. Mais Dieu ne se contente pas de simples déclarations. Il ne va pas se contenter de ces déclarations tant qu'elles ne sont pas accompagnées de vérité, tant que ces déclarations ne sont pas étayées par des exemples pratiques. Le Messie premier Islam a déclaré que ces déclarations doivent être accompagnées par des actions pratiques. Et l'on doit montrer qu'il y a eu des changements pratiques. On doit montrer des preuves. Et le Messie premier Islam déclare que je suis profondément peiné dans certains cas à ce sujet. Ainsi, le Messie premier l'Islam déclare que Dieu ne se contente pas de simples déclarations tant que cela n'est pas accompagné de vérité. Cette déclaration doit être étayée par des exemples pratiques, par des changements pratiques. C'est pour cette raison que dans certains cas, je suis profondément peiné, dit le Messie premier l'Islam. Donc le Messie premier l'Islam veut des preuves pratiques. Nous devons faire une analyse de conscience et ce sera meilleur pour nous. Quand les autres nous conseillent, des fois on se sent blessé. Des fois, en raison de ces conseils, l'orgueil monte à la surface. Mais on doit tout le temps, à chaque instant, comprendre que Dieu est en train de nous regarder. Et moi, j'ai prêté allégeance aux mains du Messie promis, alayhissalam, et je vais devoir respecter ce serment. C'est en ayant ces pensées à l'esprit que le croyant pourra faire son auto-analyse. Un Ahmadi, même faible, possède une lueur de vertu. Lorsque cette conscience renaît, on va voir des braises de vertu. Chacun va devoir arroser cette bonne œuvre grâce à ses actions. l'on doit aussi ressentir la douleur du Messie promis, alayhi salam. Ceux qui prennent conscience de cela se transforment en branches verdoyantes, alors qu'ils étaient auparavant des branches sèches. Beaucoup de personnes m'écrivent à ce sujet et expriment leur peine. Ces personnes disent que nous voulons voir ces changements purs, que désirer voir le Messie promis à l'Islam. Celui qui va essayer de faire revivre sa conscience, celui qui va implorer Dieu, Dieu qui aime ses serviteurs plus qu'une mère aime ses enfants, va courir vers lui et va le serrer dans ses bras. Et cela va transformer complètement ces personnes. Dieu nous a offert une occasion en or pour nous réformer, pour réformer notre situation ici sur terre et dans l'au-delà. Si nous ne profitons pas de cette situation, ce sera là notre plus grand malheur. Le Messie promis à l'Islam a exprimé sa peine. Il a exprimé cette peine alors qu'il y avait des personnes qui profitaient directement de sa présence et de ses bénédictions. Des personnes dont nous envions le statut lorsqu'on lit leurs récits, des personnes qui ont apporté en elles de grands changements, de grandes révolutions. Mais regardez la douleur du Messie promis à l'Islam. Regardez le niveau de taqwa qu'il désirait voir dans ses suivants. Il s'est dit très peiné en voyant la situation de certains. Nos faiblesses à nous doivent certainement l'attrister profondément. C'est vrai que le Messie promis à l'Islam n'est pas présent aujourd'hui parmi nous, mais Dieu peut certainement l'informer de notre situation. Dieu peut l'informer de la situation des descendants de ses compagnons, de ses aînés. Ces compagnons qui ont évité à l'époque du Messie promis l'Islam cette société malsaine, des personnes qui ont abandonné ce bas monde pour le plaisir de Dieu. Des personnes qui ont vécu selon les promesses qu'elles ont faites, c'est-à-dire qu'elles vont toujours préférer la foi au monde. Mais malheureusement, la foi de certains, de ses descendants, de ses compagnons, s'est affaiblie, et certains n'ont même pas de soucis à se faire à ce sujet. Nous allons devoir nous remémorer de la situation de nos aînés, afin que nous puissions nous réformer. Et nous devons aussi avoir en tête notre objectif, un objectif que nous devons atteindre. Nous devons réfléchir sur les aspects de leur vie. Nous devons connaître les raisons pour lesquelles ils ont accepté le Messie promis l'Islam. Et c'est là que nous allons atteindre notre objectif. C'est là que nous allons pouvoir vivre selon leurs désirs. Quelques jours de cela, j'ai rencontré le fils d'un aîné de la communauté qui s'appelait Abdul Mourni Khan. Son fils m'a dit que son père avait complété ses études de chimie à l'université d'Aligarh. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants musulmans qui étudiaient la science. Et on lui a proposé un travail à l'université parce qu'il avait eu de bons résultats. Et on lui a dit qu'il pourra continuer ses études. Son père, quant à lui, a cherché le soutien d'un ami anglais parce que les Anglais étaient les dirigeants à l'époque en Inde. Et cet Anglais lui a offert un très bon travail. On lui a aussi conseillé de passer le concours de la fonction publique. Khan Saheb était à Qadian durant ses jours. C'était à l'époque du deuxième calife. Il a présenté au deuxième calife ses propositions et il a tout simplement déclaré que moi, je ne veux pas tomber dans ce bas monde. Je veux vivre ici à Qadian et je préfère balayer les rues de Qadian que d'avoir ces grandes professions. Donc, il y avait de tels aînés dans la communauté. Des personnes qui ont profité de la présence des compagnons du Messie premier l'Esra. Ensuite, M. Abdul Mourni Khan a enseigné la science et il était, je crois, le premier Nazir Baitulman à Qadian. Ses aînés et ses compagnons du Messie promis à l'Islam essayaient de se dépasser les uns les autres dans le domaine de la vertu. Mais les faiblesses de quelques-uns tourmentaient le Messie promis à l'Islam. Ils se disaient fortement attristés par leur situation. Il est donc très important de regarder de près notre situation. Nous devons comprendre de qui sommes-nous les descendants? Quels sont les changements que nos aînés ont apportés en eux après avoir embrassé l'Ahmadiyya? Si nous méditons à ce sujet et si nous faisons le serment que nous n'allons pas déshonorer les noms de nos aïeux, nous allons pouvoir nous réformer et ainsi nous pourrons rehausser le niveau de notre taqwa. Et nous serons enclins à accomplir de bonnes œuvres. Voilà le signe des peuples qui sont vivants, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas mourir les valeurs de leurs aînés et essayent de se réformer et rehaussent le niveau de leur spiritualité. Et les nouveaux venus entrent dans la communauté avec cet esprit nouveau. Et lorsqu'ils regardent de près le niveau élevé des anciens, ils essaient de les surpasser. Et ainsi, le niveau de la vertu augmente au sein de la communauté. Quand nous disons que nous avons accepté le Messie premier al-Islam, nous allons devoir nous réformer et nous allons devoir apporter une révolution dans le monde. Et pour cela, nous allons devoir faire une analyse constante. Non seulement que nous allons devoir analyser notre situation à nous, nous allons devoir faire l'analyse de nos épouses et nos deux enfants. Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'épouse est celle qui connaît le mieux les secrets de son mari. Elle est celle qui connaît les actions et les paroles de son mari. Si le mari est bon, son épouse sera bonne, sinon il va se voir dans le miroir. L'autre va lui dire « Pourquoi essaies-tu de me corriger? Corrige-toi en premier. » Pour que les femmes se réforment, les hommes doivent se réformer en premier. Si les femmes se réforment, nous aurons la garantie que les prochaines générations vont pouvoir se corriger et se réformer. Pour apporter ces changements purs dans ces générations futures, afin qu'ils soient fermes dans leur foi, les hommes doivent consacrer toute leur attention à leur situation. Les exemples des hommes et des femmes, les exemples des époux, les exemples des maris, tout cela va faire comprendre aux enfants leur objectif principal. Leur objectif n'est pas de se tourner entièrement vers ce bas monde, leur objectif est d'essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Mais je dois présenter ici un éclaircissement. L'on ne doit pas croire que Dieu nous en préserve, que les compagnons du Messie premier l'Islam étaient très faibles. C'est pour cette raison que le Messie premier l'Islam a été contraint de dire cela. ou que ses compagnons étaient en grand nombre, ceux qui avaient ses faiblesses. Il n'y avait que quelques-uns qui n'avaient pas atteint le niveau requis du Messie promis l'Islam. Mais le Messie promis l'Islam ne voulait pas voir ses faiblesses, même en ces quelques-uns. Dans cette même réunion où il a exprimé sa peine et sa tristesse, il a aussi déclaré que je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont progressé dans leur sincérité et dans leur amour. Il déclare que des fois, je suis moi-même profondément étonné en voyant la sincérité et la fidélité des membres de cette communauté. Il y avait donc grand nombre de ses compagnons qui avaient cette foi et cette ardeur. Ils étaient en majorité ceux qui possédaient cette ardeur. Tous possédaient cette ardeur et cette foi, comparés à nous. Mais le prophète voulait voir sa jamaat au plus haut niveau. Il y a encore un nombre important de prophéties qui doivent se réaliser au cours de notre période, car nous sommes en train de vivre l'époque du Messie promis à l'Islam. Dieu lui a promis nombre de choses, des choses qui vont s'accomplir. Si nous voulons voir l'accomplissement de ces prophéties au cours de notre vie, nous allons devoir regarder de près notre sincérité, notre foi et le niveau de notre taqwa. Nous avons le désir que Dieu va nous faire voir les progrès de la communauté. Nous allons devoir aussi faire des efforts pour avoir son plaisir. Je dois aussi ajouter que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, à notre époque, il y a beaucoup de personnes qui ont progressé dans leur sincérité et dans leur fidélité, et ils ont insufflé cet esprit dans les nouvelles générations. J'avais évoqué dans le passé le souci des Ahmadis du Pakistan, qui disait qu'après les incidents de Lahore, les Rudam ou les Ansar étaient deux factions devant les bâtiments de la communauté. On avait reçu des nouvelles que certains commençaient à s'ennuyer ou se fatiguer parce qu'ils étaient deux factions pendant une longue période, où certains n'étaient plus intéressés par cela, et que la communauté doit faire quelque chose à ce sujet. Lorsque le sadr de la Khuddam ou l'Ahmadiyya a transmis cela au Khuddam, j'ai reçu des lettres remplies de sincérité et de fidélité de la part de ces jeunes du Pakistan, des jeunes qui ont déclaré que nous renouvelons notre serment d'allégeance. Nous n'étions pas fatigués dans le passé et nous n'avons pas laissé naître de telles pensées dans nos esprits, à savoir que les devoirs envers la communauté se sont transformés en fardeau. N'ayez pas de soucis à vous faire à ce sujet. Et j'ai reçu des lettres de la part des femmes qui disent que quand nos maris, nos pères, nos fils, nos frères retournent du travail, ils repartent immédiatement pour servir la communauté. Et nous leur disons au revoir toutes joyeuses. Et même étant seuls, nous n'avons pas de crainte. Tout cela est en raison de leur foi, en raison de leur fidélité. Et lorsque vous êtes en train d'accomplir votre devoir, vous ne devez pas non plus oublier Dieu. Vous devez prier aux heures prescrites. Et lorsque vous êtes de faction, vous devez vous consacrer au souvenir de Dieu, au dhikr. Notre plus grande force, c'est Dieu. L'aide que nous allons recevoir viendra de la part de Dieu. Nos efforts sont insignifiants. Et nous sommes en train d'agir selon les préceptes de Dieu, mais c'est Dieu qui va tout faire. Lorsqu'on va se cramponner à Dieu, c'est Dieu lui-même qui va s'occuper de l'ennemi. C'est Dieu lui-même qui va arrêter sa main. On ne doit jamais être négligent concernant la prière. J'ai ensuite évoqué ces prières et ces dhikr, vont se manifester en la personne de tout un chacun. C'est là que l'on pourra atteindre le niveau requis par le Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam déclare que Dieu affirme « Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun » Dieu soutient ceux qui le craignent et se purifient, ceux qui craignent la désobéissance. C'est la crainte de Dieu qui soutient les croyants. Cette crainte de Dieu les protège des craintes de ce bas monde. Un Ahmadi doit avoir cette crainte de Dieu. Il doit craindre attention que Dieu ne soit en colère avec lui. Le Messie premier l'Islam déclare « Dieu m'a annoncé d'informer ma communauté que ceux qui vont croire et dont la foi ne sera pas ternie par les désirs de ce bas monde, ceux dont la foi ne sera pas souillée par l'hypocrisie ou par la courtise, ceux dont la foi ne sera pas dénuée d'obéissance, les personnes qui posséderont cette foi seront aimées par Dieu. Je déclare que ce sont ces personnes qui marchent sur les voies de la vérité. » Voilà donc le niveau dans la foi que nous devons atteindre. Voilà le niveau que le Messie promis l'Islam voulait nous voir atteindre. Que Dieu fasse que nous puissions atteindre ce niveau. J'ai mentionné ici en passant l'obéissance et je veux évoquer quelques points à ce sujet. Le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on ne doit pas être dépourvu de n'importe quel degré d'obéissance. L'obéissance a plusieurs degrés. Ce sont des points que nous devons toujours avoir en tête. Il y a l'obéissance envers la Nizam. On doit suivre aussi les commandements de Dieu. C'est là une autre forme d'obéissance. Il y a plusieurs autres aspects concernant l'obéissance. Le fait de faire partie d'un système, le fait de faire partie de la Nizam et de suivre ses directives, le fait d'essayer d'être obéissant envers Dieu, tout cela fait partie de l'obéissance. Celui qui a tout cela en tête va certainement progresser. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs degrés d'obéissance et nous voyons un exemple important au cours de la vie du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Quand il a reçu un télégramme du Messie premier l'Islam lui disant qu'il devait venir immédiatement, il a immédiatement quitté sa clinique où il se trouvait et il est parti rencontrer le Messie premier l'Islam. Ce télégramme n'était pas de la même ville. Le Messie promis al-Islam se trouvait à Delhi et le premier calife se trouvait quant à lui à Qadian. Il a envoyé un message à sa famille en disant qu'il va partir et il n'a pas pris avec lui ses affaires, des bagages ou des vêtements. Il est parti directement à la gare. Le train était en retard et là-bas, à la gare, il a rencontré une personne qui était accompagnée d'un malade. Cette personne lui a demandé d'ausculter ce malade. Il a eu le temps de le faire parce que le train était en retard. La personne lui a payé ses frais et il a pris cet argent pour payer son billet. C'est ainsi que Dieu a tout organisé pour lui. Ainsi, il est parti à Delhi et là-bas, il a compris que le Messie promis l'Islam ne lui avait pas dit de venir immédiatement. C'est celui qui avait écrit le télégramme qui avait dit « Viens immédiatement ». Mais le premier calife ne s'est pas plaint. Il était content. Il ne s'est pas plaint. Pourquoi m'a-t-on dérangé pour rien? Voilà donc le plus haut degré d'obéissance. Chacune de ses pensées, chacun de ses soucis ne valait rien face à l'obéissance. Et Allah a subvenu à ses besoins, comme je l'ai déclaré. C'est à propos de telles personnes que Dieu éprouve de l'amour. C'est là un exemple pour nous. Ensuite, il y a la Nizam et Jamaat, où l'on doit faire preuve d'obéissance envers les responsables au plus bas de l'échelle jusqu'au calife. C'est en fait une continuation de l'obéissance envers Dieu et envers son prophète. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Celui qui a obéi à mon amir m'a obéi moi, et celui qui m'a obéi a obéi à Dieu. » Afin que l'on puisse atteindre le niveau de base de l'obéissance au sein de la Nizam et Jamaat, il est important de faire preuve d'obéissance même au niveau le plus inférieur. Dans toute organisation, au sein de l'État, il y a tout un système qui a été mis en place. Et sans ce système, l'organisation ne pourra pas marcher. Il faut qu'on respecte certaines règles pour faire tourner l'État. Et puisque l'État possède le pouvoir, elle peut user de son pouvoir pour que l'on respecte ses règles. Mais au sein d'un système spirituel, c'est la sincérité, la fidélité et le plaisir de Dieu qui sont les fondements de l'obéissance. C'est pour cette raison que le Messie premier, l'Islam, a déclaré que Dieu a déclaré que j'aime ceux qui font preuve d'obéissance à tout niveau. Ceux qui font preuve d'obéissance à tous les niveaux, du niveau le plus inférieur jusqu'au niveau le plus supérieur, vont certainement le faire pour avoir le plaisir de Dieu. Dieu a promis le califat à la communauté Ahmadiyya. Et Dieu a promis aux croyants que le califat va perdurer parmi eux. Le seul exemple de cela est dans la Jamaat Ahmadiyya. Mais dans un des versets qui précède ce verset où Dieu a promis le califat, Dieu a évoqué certains points. Il est dit « Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna allaha khabirun bima ta'malun. » Et ils jurent par Allah des serments les plus solennels que si tu leur commandes, ils sortiront assurément. Dis, ne jurez pas. La manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Ici, Dieu nous fait comprendre quelle doit être la teneur de l'obéissance des croyants. Lorsqu'ils entendent un ordre, ils disent « Sami'na wa ta'na ». Ils disent, nous avons entendu et nous obéissons, que cela va à l'encontre de ce que nous désirons, que cela soit en accord avec nos désirs, nous allons dans tous les cas faire preuve d'obéissance. Voilà le plus haut niveau que doit atteindre un croyant. Si vous êtes croyant, ce n'est pas la peine de faire de grands serments, déclare Dieu. Vous devez uniquement faire preuve d'obéissance. Nous ne pouvons pas dire que nous allons respecter toute décision marouf, toute décision majuste, et ne pas appliquer la décision qui a été prise. Allah déclare, le véritable croyant est celui qui ne se contente pas de faire des serments, mais qui fait preuve d'obéissance en toute situation. Je dois présenter des éclaircissements ici, des éclaircissements que j'ai apportés dans le passé. On parle ici des décisions justes ou maroufes. Que l'on comprenne que le califat ne va jamais vous donner des ordres contraires aux préceptes de Dieu. Marouf ici signifie obéir à tout ordre qui sera en accord à la charia. Si les Ahmadis ont cette certitude que ce califat est basé sur la Naboua, tout comme il a été dit Al-Khilafa ala Minhaj Naboua, ils doivent aussi avoir la certitude que le calife ne va jamais donner des ordres contraires à la charia. Ensuite, il y a la nizam et jamaat. Vous êtes sous la nizam et celle-ci ne va pas vous donner des ordres contraires à la charia. Et si des ordres contraires vous sont donnés, pour quelque raison ou par erreur, eh bien, le calife va corriger ces ordres lorsqu'on va lui présenter ses affaires. Les Ahmadis prient pour la pérennité du califat. Il doit aussi prier pour sa propre personne afin que son obéissance soit indéfectible et du plus haut niveau, afin qu'il puisse avoir le plaisir de Dieu, afin qu'il puisse aussi profiter des faveurs du califat, afin qu'il ne soit pas privé des faveurs de Dieu. Des fois, certaines personnes, pour des raisons personnelles, n'ont pas confiance dans la Nizam et Jamaat. Et ainsi, ces personnes sont privées de ces faveurs, des faveurs que Dieu a accordées après 1400 ans. Certaines personnes présentent leur litige dans la Qada. La Qada est en fait une instance de médiation au sein de la communauté. Et en raison de certaines contraintes légales, lorsqu'on demande aux parties concernées qu'ils doivent signer un papier pour déclarer qu'ils acceptent toute décision de la Qada, qui est une instance de médiation, et qu'ils vont accepter ces décisions de gaieté de cœur, lorsqu'on présente cette clause, certaines personnes refusent d'accepter cela. Ces personnes refusent d'accepter ces clauses en pensant que ces décisions ou que ces verdicts seront contre leurs intérêts. C'est pour cette raison qu'elles refusent de signer cette clause. Leurs intentions ne sont pas bonnes dès le début. Elles veulent tout simplement gagner du temps pour ensuite partir au tribunal. Mais si ces personnes refusent cette médiation et se tournent vers les tribunaux et que le jugement n'est pas en leur faveur là-bas, elles essayent de nouveau de se tourner vers la Qada. Dans de tels cas, la Jamaat n'accepte plus leur cas, car ces personnes ont rejeté l'obéissance dès le premier jour. Elles n'ont pas placé confiance en la Jamaat. Et Dieu n'aime pas celui qui le désobéit. Quand Dieu n'aime pas une personne, même si cette personne se dit être un membre de la communauté, cette personne ne profitera pas de cette grâce que Dieu accorde aux membres de la communauté. Ce sont apparemment des choses insignifiantes, mais en raison de l'orgueil, en raison de leurs soupçons, ces personnes se privent des faveurs de Dieu. Toute personne doit essayer d'avoir le plaisir de Dieu, car c'est en cela que réside notre salut, c'est en cela que réside le salut de nos générations futures. Je m'adresse aussi aux responsables de la Jamaat et je leur dis qu'ils seront de véritables représentants du califat lorsqu'ils vont faire preuve de justice en craignant Dieu. Si quelqu'un trébuche en raison d'un responsable, ce responsable sera aussi coupable parce qu'il ne s'est pas acquitté envers cette amana que Dieu lui a confiée. Si une personne s'est égarée en raison de son erreur à lui et qu'il a commis cette erreur en toute connaissance de cause, ce responsable sera coupable et il ne s'est pas acquitté de son devoir envers Dieu. Tout Ahmadi, quel que soit son statut, doit comprendre que moi, je dois respecter les clauses du serment d'allégeance. Je vais devoir préserver ma foi et en toute situation, je vais faire preuve de vérité et de taqwa. Afin que je puisse accomplir le but de l'avènement du Messie promis alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam déclare : je ne désire pas augmenter le nombre de ma communauté. Je ne veux pas tout simplement augmenter le nombre de mes suivants. La Jamaat ne signifie pas placer sa main sur la main d'un autre pour lui prêter allégeance. On va mériter le titre de Jamaat lorsqu'on va faire des efforts pour suivre les préceptes de la Bayra, lorsqu'on va apporter un soi, un changement pur, et lorsqu'on va se détourner de tout péché, de toute impureté, et lorsqu'on va sortir des griffes de Satan et des penchants liberté, lorsqu'on va se plonger en la personne de Dieu, lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers les créatures de Dieu, de gaieté de cœur, lorsqu'on aura un désir ardent de répandre la foi, et lorsqu'on va détruire ses propres désirs et se consacrer à Dieu. Le Messie premier, l'Islam, déclare : le Muttaki est celui qui craint Dieu et qui abandonne ces choses qui sont contraires aux désirs de Dieu. Et il doit considérer ses désirs et ses penchants libertins et le monde et tout ce qu'il contient comme rien face à Dieu. Qu'à la face que chacun d'entre nous puisse mener une vie qui soit à la hauteur des attentes du Messie promis alayhi salam.